Chapitre 8. 7 minutes plus tard, le jardin et la maison grouillent d'agents appartenant tous au groupe spécial de la CEPO, appelé Electrolux en interne, suite à une plaisanterie dont plus personne ne se souvient. Pendant 2 ans, la CEPO a pris des mesures drastiques pour renforcer la protection des membres du gouvernement avec garde du corps et bracelets anti-agression ultra-modernes. Différents niveaux d'alerte ont été instaurés. Mais comme la femme a appuyé simultanément sur les 2 boutons de l'alarme pendant plus de 3 secondes, c'est le plan Platina qui a été activé. Le lieu du crime a été sécurisé. 3 zones autour du Grand Stockholm sont sous haute surveillance et des barrages routiers sont installés. Janus Mikkelsen de la CEPO arrive et serre la main à Saga. Il reprend la direction de l'opération dans la villa et elle l'informe rapidement de la situation. Janus possède une sorte de charme fatigué de hippie avec ses boucles blond roux et sa barbe de 2 jours. Si Saga lui trouve un air peace and love, elle sait aussi qu'il a été militaire de carrière avant d'intégrer la CEPO. Il était stationné au large de la Somalie dans le cadre de l'opération Atalante. Janus poste un agent devant la porte, même si la liste habituelle de ceux qui pénètrent sur la scène de crime ne sera pas établie. Il ne restera aucune documentation portant sur les personnes présentes dans la maison après l'assassinat. Le plan Platina rend en effet impossible d'identifier rétrospectivement les personnes qui ont été informées des événements et celles qui ont été tenues à l'écart. 2 agents de sûreté s'approchent de la jeune femme allongée sur le flanc, bras et jambes entravés par des colliers Colson. Ses yeux sont rougis par les pleurs, le mascara a coulé sur ses tempes. L'un des hommes s'agenouille à côté d'elle et sort une seringue de Ketalar. Elle est prise de panique et se met à trembler de tous ses membres. L'autre homme la maintient pendant l'injection faite dans le cou. Ses joues s'empourprent, elle incline la nuque en arrière et son corps se contracte avant de se détendre complètement. Les agents coupent les colliers de serrage et lui enfilent un masque à oxygène, la placent dans un sac mortuaire et tirent la fermeture éclair. Il porte le corps inerte dans un fourgon pour qu'il soit transporté à la filature. Les 4 autres équipes se sont déjà lancées dans l'examen poussé de la scène de crime, travaillant à établir une documentation détaillée. Faisant preuve d'un grand savoir-faire, les agents relèvent des empreintes de chaussures et de doigts, cartographient des images d'éclaboussures, de trous d'entrée de projectiles et d'angles de tir, rassemblent des traces biologiques, des fibres textiles, des cheveux, des fluides corporels, des morceaux d'os, des matières grises, des éclats de verre, divers fragments de bois et particules. L'épouse et les enfants du ministre ne vont pas tarder à rentrer. Fais savoir, Janus. Leur avion atterrira à Arlanda à 8h15. D'ici là, il faut que les lieux soient nettoyés. Les enquêteurs doivent recueillir tous les indices disponibles en une seule fois, car ils n'auront pas la possibilité de revenir. Saga monte l'escalier qui grince et entre dans la chambre du ministre. La pièce sent l'urine et la transpiration. Des sangles de cuir pendent des 4 montants du lit. Les draps sont souillés de sang. Sur une commode, à la faible lueur d'un remontoir automatique, elle voit une cravache. Derrière le verre de l'appareil, dans un silence absolu, une Rolex tourne à côté d'une Breguet. Saga se demande si l'épouse sait qu'il faisait venir des prostituées. Probablement pas. Peut-être s'est-elle juste abstenue de demander. Avec l'âge, on se rend compte qu'on est capable de supporter de nombreuses fissures dans l'image de soi et de continuer à s'agripper à ce qui nous semble malgré tout rassurant. Saga elle-même a été la compagne du pianiste de jazz Stefan Johansson pendant plusieurs années avant qu'il la quitte. Parti s'installer à Paris, il y joue dans un orchestre et il s'est fiancé. Saga sait qu'elle n'est pas facile à vivre, qu'elle a du tempérament et qu'elle s'emporte parfois pour rien. Elle travaille beaucoup et la seule relation sexuelle qu'elle entretient depuis leur séparation est celle avec Stéphane, justement, quand il vient jouer en Suède. Il l'appelle tard le soir et elle le laisse rester la nuit. Elle sait pertinemment qu'il ne va pas quitter sa fiancée, mais cela ne l'empêche pas de coucher avec lui. Elle redescend au rez-de-chaussée et va se poster dans la cuisine auprès du cadavre abîmé par les balles. La lumière des projecteurs se reflète dans les plaques de cheminement en aluminium antidérapant. C'est comme si elle se tenait sur un pont d'argent jeté au-dessus d'un chaos ensanglanté. Elle examine longuement les paumes du mort, tournées vers le haut, le cale jaune sous l'alliance, les taches de sueur sur la chemise au niveau des aisselles. L'équipe autour d'elle travaille rapidement et en silence. Les agents filment et cataloguent tout le matériel dans un système de coordination en 3D sur un iPad. Avec une précision d'horloger, des cheveux et des fibres textiles sont scotchés sur un transparent, tandis que chair et fragments de crâne sont glissés dans des tubes qui sont immédiatement réfrigérés pour empêcher la prolifération microbienne. Aucun prélèvement ne sera envoyé au NFC, le Centre National des Sciences Forensiques à Linköping, puisque dans des circonstances comme celle-ci, la CEPO utilise son propre laboratoire. Saga s'approche de la porte de la terrasse et examine le trou circulaire percé dans le triple vitrage. C'est seulement lorsque la chaise a été lancée sur la porte-fenêtre du séjour que le détecteur acoustique de bris de vitre et les contacts magnétiques ont réagi et que l'alarme s'est déclenchée. Ça ne peut pas être le tueur qui a lancé la chaise. Saga pense au visage terrorisé de la femme, à ses poignets écorchés, à l'odeur d'urine. Était-elle tenue prisonnière ici ? Deux hommes couvrent le sol de grandes feuilles de film électrostatique qu'ils appliquent avec un large rouleau de caoutchouc. Un technicien en informatique enveloppe avec précaution le disque dur des caméras de surveillance dans du papier bulle avant de poser le paquet dans un sac isotherme. Yannis est stressé. Il serre les mâchoires, ses sourcils se confondent presque avec sa peau livide et la transpiration perle sur son front couvert de taches de rousseur. « Quel merdier, qu'est-ce que tu en dis ?» demande-t-il en venant se placer à côté de Saga. « Je ne sais pas. Les premières balles dans le torse ont été tirées à distance et avec un angle assez bizarre. Le sang a coulé à flot du corps du ministre des Affaires étrangères, du sang veineux qui a ruisselé de l'abdomen et formé une flaque sur le sol. » La vitesse d'une balle tirée par un pistolet est d'environ 1000 km à l'heure et elle laisse une collerette d'essuyage ronde autour de l'orifice d'entrée. Sur la chemise du ministre, un dépôt de débris charbonneux provenant de la balle dessine deux cercles minces. D'abord, deux tirs à distance, puis deux tirs à bout touchant. Saga se penche sur le cadavre et observe les orifices d'entrée dans les yeux. Il n'y a pas de cratère autour des plaies. Il a utilisé un silencieux, chuchote-t-elle. Le silencieux en question était forcément d'un type qui réduit également la flamme, puisqu'aucune chambre de mine n'est visible. Sinon, les gaz de combustion auraient pénétré sous la peau et creusé une cavité conique. C'est l'aspect habituel d'une blessure par balle. Elle se relève et fait un pas de côté pour laisser la place à un technicien qui recouvre le visage du mort d'un film autocollant. Il l'appuie contre les orifices d'entrée des balles afin que les particules de la collerette d'essuyage y adhèrent, puis il marque le centre des orifices sur le plastique avec un crayon feutre. On l'a roulé sur le ventre après sa mort, puis on l'a remis sur le dos, déclare Saga. Et pourquoi ? Rigole le technicien. Pourquoi ferait-il ? Tais-toi, l'interrompt Yannis. Je veux voir son dos, dit Saga. Fais ce qu'elle te dit. Tous sont conscients du temps qui file et le stress redouble. Les techniciens fixent des sachets autour des mains du ministre et placent un sac mortuaire ouvert à côté de lui. Ils soulèvent avec précaution le corps massif et le déposent sur le ventre dans la housse. Saga examine les larges trous de sortie des projectiles dans le dos et comprend tout de suite pourquoi le corps a été déplacé. L'assassin a emporté les balles. Personne ne fait ça, murmure Yannis. Il a utilisé un pistolet semi-automatique avec silencieux. Quatre coups ont été tirés, dont deux immédiatement mortels, dit-elle. Un homme corpulent passe parmi les meubles sombres du salon et vaporise du rouge de Hongrie sur les tissus pour révéler toute trace de sang, tandis qu'un autre remet un fauteuil en place dans les petits creux qu'ont laissé ses pieds sur le tapis oriental. « Allez, on remballe !» lance Yannis en frappant dans ses mains. « On va procéder au nettoyage de la maison dans 10 minutes. » Le vitrier et le peintre seront là dans une heure ou plus tard. Le même technicien enlève les plaques de cheminement derrière eux en sortant. Dès qu'ils sont dehors, une autre équipe entre et décontamine la maison avec un produit mousseux à forte odeur de chlore. L'auteur des faits n'a pas seulement emporté les douilles vides, il a aussi extrait les balles du parquet et du mur pendant que l'alarme sonnait et que la police était en route. Même un tueur professionnel du plus haut niveau ne ferait pas une chose pareille. Il s'agit d'un assassinat exécuté à la perfection, et pourtant le tueur a laissé un témoin. Il n'a pas pu lui échapper qu'une autre personne se trouvait sur les lieux. « Je vais aller voir le témoin », déclare Saga, convaincu de l'implication de la jeune femme. « Nos experts y sont déjà, tu le sais très bien », réplique Anus. « J'ai besoin de poser mes propres questions », répond-elle avant de se diriger vers sa moto.